Nous allons reprendre, la pause était courte, désolé mais bon, le sujet est passionnant. On va donc reprendre avec deux présentations, enfin une présentation sur le thème de l'enfance et des souvenirs, la part française de Vladimir Nabokov, que Yannick Chupin, donc l'une des organisatrices, va nous présenter avec l'intervenante Tatiana Ponomareva, qui arrive de Saint-Pétersbourg, qui nous fait l'honneur d'être ici avec nous aujourd'hui. Cette présentation sera suivie directement de la lecture que nous ferons le comédien Denis Podalydès, qui va bientôt arriver, de Mademoiselle O. Il nous fera cette lecture d'extrait à partir de 17h. Voilà, et puis on se retrouvera après à 18h pour la dernière table ronde. Donc, bonne continuation.
Merci Jérémy. Avec les deux interventions suivantes, nous allons revenir à la fois sur les pas et sur les pages de l'enfance de Nabokov à Saint-Pétersbourg, et nous arrêter sur la couleur française de cette enfance enchantée. Alors, pour commencer avec Tatiana Ponomareva, qui est la directrice du musée Nabokov à Saint-Pétersbourg, le seul musée Nabokov au monde, m'a-t-elle dit de préciser, un musée qui se loge dans la maison même que Nabokov habita avec sa famille jusqu'en 1917, un musée qui est ouvert aussi depuis 1999. Alors, après avoir brièvement présenté le catalogue de la librairie, Tatiana va nous inviter, je crois, à voyager, à trottiner virtuellement sur le chemin que prenait chaque jour le petit Nabokov pour aller à l'école. Et nous allons observer quelques-uns des jalons français qui marquaient ce chemin. Puis, c'est la voix de Nabokov lui-même que nous allons entendre à travers celle du comédien Denis Podalydès, qui va lire pour nous Mademoiselle O, ce texte que Nabokov écrivit en français dès 1936 et qui figure désormais dans son autobiographie. Dans un français plein de malice, il y dresse un portrait à la fois attendri et cocasse de sa gouvernante lausannoise, au nom, disait-il, si rond, si patapon. Mademoiselle O a été la figure tutélaire de ce colloque. On a entendu sa voix de rossignol sortant de son corps d'éléphant tout au long de ces trois journées. A-t-elle vraiment vécu ? Demandait Nabokov. Et nous avons voulu, grâce à cette lecture, lui redonner vie. Et lui redonner vie, c'est aussi le projet de l'artiste Alexandra Love, qui signe une très belle édition de cette histoire contée par Nabokov sur 31 cartes postales. 31 cartes comme les 31 jours d'un mois, enfin les mois les plus longs. 31 cartes qui vont pouvoir vous être envoyées par la poste à raison d'une carte par jour, comme la fiction par épisode de jadis qui parvenait à ses lecteurs, suspendant le fil de l'histoire au rythme de la poste ou du facteur. Donc c'est une édition limitée de 500 exemplaires qui a été créée à l'occasion de ce colloque. Alors vous pourrez vous adresser directement à Alexandra qui est au premier rang ici pour savoir comment obtenir ces cartes postales. Elles sont aussi en vente dans la librairie du centre, la librairie Flammarion. Et puis j'ajoute que c'est un moyen aussi d'acquérir ces cartes, de soutenir notre association, la Société française Vladimir Nabokov. Je laisse la parole à Tatiana.
Merci. Bonjour. Je voudrais remercier la Bibliothèque publique d'information, la Société Nabokov de la France, tous les chercheurs enchantés pour ce colloque excellent. Rentrons dans l'enfance, à l'enfance. I was a normal trilingual child in a family with a large library. Disait Vladimir Nabokov dans une interview. Quelle était la place de la langue française dans la vie quotidienne de la famille Nabokov? The large library, la maison Nabokov avec la librairie grande. Quelle était la place de la langue française dans la vie quotidienne de la famille Nabokov? Peut-être nous pouvons trouver la réponse dans l'autobiographie de Nabokov, Autre rivage. Lorsque le père de Vladimir répond à la difficile question sur le sexe posée par son fils de 10 ans.
Alors voici la réponse du père, racontée par Nabokov. Mon père froissa le journal allemand qu'il venait d'ouvrir et répondit en anglais. Par le pastiche de ce qui était peut-être bien une citation, façon de parler qu'il adoptait souvent quand il ne savait pas comment s'en sortir autrement. C'est là, mon petit, tout simplement un exemple de plus de ces combinaisons absurdes de la nature, quelque chose comme la honte et la rougeur, ou le chagrin et les yeux rouges. Tolstoï vient de mourir, ajouta-t-il soudain, en français, d'un ton de voix différent, et comme frappé de stupeur, en se tournant vers ma mère. Dashtoti, quelque chose comme bonté divine, s'écria-t-elle avec affliction, en serrant les mains sur ses genoux. Poradomoï, il est temps de rentrer chez nous, ajouta-t-elle en guise de conclusion, comme si la mort de Tolstoï était le présage de désastres apocalyptiques.
Alors, pour toute la famille Nabokov, la langue française, comme la langue russe, est utilisée dans toutes les réactions spontanées et émotionnelles. Alors, la librairie. Voyons le catalogue. Le catalogue de la librairie de la famille Nabokov. Le catalogue a été divisé selon les différentes langues. Les livres en russe, français, anglais et allemand, ainsi qu'en différentes sections. La fiction, la littérature pour enfants, l'histoire, la géographie, le droit, la sociologie, la religion, la philosophie, les sciences, etc. Je dois dire que les livres de fiction en français sont bien plus nombreux que ceux écrits dans toute autre langue, y compris le russe. Dans la section fiction, nous trouvons les mêmes écrivains que Nabokov cite dans Autre rivage. En fait, les écrivains préférés de son père, Balzac, Flaubert, Stendhal, Zola, Le Goncourt, Maupassant, Daudet, Hugo, Musset, Anatole France et Romain Rolland. Dans la version française de son autobiographie, Nabokov décrit certains des livres que Mademoiselle Mioton avait lu à son frère et à lui-même. En particulier, pour plus de détails, Nabokov cite le roman « Les malheurs de Sophie », publié dans les séries « La bibliothèque rose », écrit par la comtesse russe Sofia Rostopchina, née à Saint-Pétersbourg exactement 100 ans avant Nabokov, et qui est devenue célèbre en France sous le nom de comtesse de Ségur. Dans les versions russes d'autres rivages, un autre livre en français est mentionné tout particulièrement. Il s'agit du roman « La jeune sibérienne ». Nabokov a préféré le supprimer de la version française, pensant que seul le lecteur russe de sa génération serait capable de reconnaître ce titre français. Imaginant la première visite de Cécile Mioton, sa gouvernante française à Saint-Pétersbourg en hiver, Nabokov insère dans le texte russe cette petite phrase « N'est-ce pas l'agent sibérien ?» L'agent sibérien a été écrit par Xavier Demestre, un auteur né en Savoie et qui a choisi d'émigrer à Saint-Pétersbourg où il a passé presque toute sa vie et où son roman écrit en français a été un vrai best-seller en Russie. Il a même reçu l'éloge du célèbre critique russe Vissarion Belinsky. Le dramaturge Nicolas Polevoy a également écrit une pièce sur l'agent sibérien en russe et qui a connu un énorme succès dans les théâtres russes. La popularité du roman ne se démène pas jusqu'à la fin du siècle. Et d'après les mémoires de l'artiste Mstislav Dobujinsky, qui a été le professeur de Nabokov, nous apprenons que dans le lycée où il a étudié, la jeune sibérienne était au programme du cours de langue française. L'histoire est basée sur des faits réels qui sont devenus une légende populaire. Il s'agit du long voyage que fait une jeune fille russe, Praskovy Lupolov, à partir de la petite ville sibérienne où son père a été condamné à l'exil. Arrivée à Saint-Pétersbourg, elle prend rendez-vous avec la mère et l'épouse de l'empereur Alexandre Ier. Et grâce à leur influence, son père est acquitté. Praskovy devient religieuse, accomplissant le vœu qu'elle avait fait au début de son voyage. Peut-être que pour Cécile Mioton, cette histoire romantique garde pour elle une dimension mythologique de la Russie, qu'elle n'a pas oublié après les huit années passées dans la famille Nabokov. Et maintenant, nous allons aller avec Vladimir Nabokov de la maison sur Bolshaya Morskaya, la maison Nabokov, à l'école Tenichev, et suivre la route qu'il prenait chaque jour. Nous donnerons le long de la route les noms français de tous les bâtiments. La rue Большая Морская, le bâtiment qui fut la résidence du comte Artois, le futur Charles Xe. L'hôtel Astoria, le célèbre hôtel, l'été français de l'Astoria. Les premières directeurs de l'hôtel Astoria étaient en français, Louis Terrier. Il avait lancé le mot de réunion à l'heure de thé. La maison de joaillier Gravero, qui était le joaillier de la cour russe, un autre français. La maison Fabergé. Le fondateur de la maison Fabergé, Gustave Fabergé, était issu d'une famille protestante française qui avait quitté la France pour l'Allemagne après la révocation de l'édit de Nantes. L'atelier du sculpteur Falconet. C'est ici que se trouvait l'atelier du sculpteur Falconet, à qui on doit la célèbre statue équestre du Pierre le Grand, le cavalier de bronze. La rue Большая Морская avec l'arc de l'état-major sur la place du Palais. On construit par l'architecte français Paul Jacquot. L'hôtel de France. Le meuble 6 était l'hôtel de France au début de la 20e siècle. Un numéro. C'est un meuble. Se trouvait une confiserie célèbre tenue par deux propriétaires français. D'origine, propriétaire d'origine française, Wolf et Béranger. C'était c'est que Pouchkine était en rendez-vous avec son témoin d'Alsace. Au début du XXe siècle, le troisième étage de la maison était occupé par le restaurant Albert, un restaurant français. Au début du XXe siècle, dans ce bâtiment, était la librairie, la célèbre librairie française Méliès et Co. Le restaurant chez Dominique, un autre restaurant français, en perspective Nevsky chez Dominique. Il faut remarquer aussi que le club d'échecs qui s'était organisé chez Dominique attirait de nombreux savants et écrivains. Aussi le champion d'échecs de Russie, Mikhail Tchigorin. L'entreprise, le bâtiment, le meuble de l'entreprise Singer est construit par l'architecte Paul Suzor, dont la famille, d'origine française, s'était établie en Russie, de Paul Suzor. L'église catholique, l'église française, Sainte-Catherine d'Alexandrie, est l'œuvre de l'architecte français Valéry de la Motte. Le meuble de perspective Nevsky, ici se situait l'édifice de l'ancien conseil municipal de Saint-Pétersbourg. La composition, la sculpture allégorique sur l'amitié de la Russie et de la France fut construite pour la visite du président français Émile Loubet. Non existe maintenant. Le Gostin Edouard. Можно следующий, давайте, можно побыстрее, да. la perspective Nevsky, le panorama avec les tramways. Comme Nabokov écrit en Autrivage, une autre chose dont on me faisait griffe, c'était le fait de venir à l'école et d'en repartir en automobile et ne de pas faire les trajets en tramway ou en fiacre, comme le faisaient les autres garçons, un vrai démocrate. La famille Nabokov avait deux voitures. La galerie Marchand Passage est la filiale du Crédit Lyonnais. Le cinéma Piccadilly. Le cinéma Piccadilly. Tous les cinémas à perspective Nevsky, tous les noms étaient français. Le Moulin Rouge, l'Empire, les Folies Bergères. Et une autre citation tirée d'autres rivages. Tard l'après-midi, nous nous asseyons au dernier rang dans un des deux cinémas de l'avenue Nevsky, le Parisiana et le Piccadilly. Et nous terminerons par l'école Tinichev, où Nabokov a étudié pendant 7 ans. La rue Makhovaya. L'une des premières œuvres publiées de Nabokov a été la traduction d'une poésie d'Alfred Musset, parue dans le journal de l'école, La Jeune Pensée. Ici, nous voyons le programme. Le programme. Des auteurs de littérature française, dont Musset. Un des enseignants de langue française était Georgi Kazarin, qui a écrit un recueil de proverbes français et d'homonymes français. L'œuvre de Georgi Kazarin. Alors, pour terminer, je vous rappelle les paroles de Nabokov. Ma tête parle en anglais, mon cœur en russe et mon oreille en français. Merci.
Je voudrais juste ajouter qu'on remercie beaucoup Tatiana pour l'exploit qui a été quand même de parler en français pour nous présenter cet exposé. Merci beaucoup, Tatiana.
Merci. Les photographies anciennes sont de Karl Bulla, le célèbre artiste photographique russe, et les photographies contemporaines sont de Andrei Machinian. Merci.
Merci Tatiana. Si vous avez des questions sur le musée, vous pouvez bien sûr vous adresser à Tatiana après, enfin pas maintenant parce qu'on n'a pas prévu de temps pour les questions malheureusement, mais dans les parages à la prochaine pause par exemple.